Tout au long de cette semaine, on visite avec la série de reportages d'Anne-Rose Jankovic le Magnoac. Hier, nous étions à l'église collégiale de Castelnau au Magnoac et aujourd'hui, on prend la direction de l'église de Galan.
Voilà, nous avons donc quitté le Magnoac et nous retrouvons Yvonne Gougis. Bonjour Yvonne.
Bonjour.
Nous sommes avec vous à Galan, dans cette église de Galan qui est incroyable. Alors, je peux le dire aux auditeurs, j'avais jamais mis les pieds dans cette église de Galan. Elle est très surprenante. Elle est encore plus grande que celle de Castelnau-Magnoac que nous avons visitée avec Jean-Louis Ibanez précédemment. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette église, Yvonne?
Alors, elle a une histoire tellement longue, puisque, en fin de compte, on a la première trace vraiment réelle qu'on a, c'est 1119, où des bénédictins sont venus s'installer ici. Et donc, il y a la bulle de pape Gélase II qui dit exactement que un prieur avec quelques bénédictins sont venus s'installer. Ils avaient tout un domaine qui n'était pas que seulement Galan. Il y avait Tournouse de Vent, Galaise, etc. C'était un immense domaine qui existait déjà au moment des Gallo-Romains. On les appelait ici des Celtibères. Il y avait des Celtes, un mélange de population entre les Celtes et les Ibères. On les appelait donc les Celtibères. Et c'est devenu romain par la conquête romaine. Et c'est devenu, c'était un certain Gallus qui a pris ce grand domaine, d'où le nom de Galan.
Donc ça a toujours été ici même, un lieu de culte.
Alors, un lieu de culte, oui, depuis 1100, ce dont on est sûr, c'est 1119, la création de ce petit prieuré.
Alors, aujourd'hui, on imagine que l'église telle que nous la découvrons ce jour, elle n'est pas la même. Qu'est-ce qui reste de cette époque, de
Alors,
1119?
rien du tout, en fin de compte, parce que c'était en bois. Donc, il reste rien, c'est sûr. Ensuite, alors, c'est construit bien sûr une église de pierre, une petite église de pierre en pierre. Alors là, je ne peux pas trop vous dire parce que c'est très très flou au niveau des archives, parce que c'est des choses racontées. On n'a pas vraiment de preuves, etc. Mais ce qui est sûr, qu'à un moment donné, il y a eu une église. Comment que ça s'appelle C'est devenu une bastide. Donc là, vous avez des piliers qui datent de l'art roman. C'est ce qui reste de l'art roman, avec des pierres qui sont les murs du fond. Voilà. Mais il y a une histoire avec beaucoup de. Comment elle a été incendiée, il y a eu les grandes compagnies qui passaient, il y a eu après, avec l'histoire du Panthéon et des Huguenots qui ont encore détruit les églises. Donc ça a été souvent détruit, rebâti, etc. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est que, c'était un endroit riche. Vraiment, c'était un domaine très riche et qu'il y avait des convoitises. D'abord, l'évêque de d'Auch avait donc fait un arrangement pour avoir l'argent, etc. Puis, parce que ça rapportait quand même beaucoup d'argent. Et ensuite, comment vous savez, le comte de Foix aussi voulait aussi. Alors, je vous dis ça en très vite. Hein, le comte de Foix voulait monter un collège et donc il avait demandé, il avait fait aussi un arrangement avec l'église d'ici pour avoir l'argent. Et puis, pour avoir tout le domaine, et en fin de compte, il payait je sais plus, une pièce d'argent, je ne sais plus combien. Donc voilà, ça, faut le dire. Alors après, ils ont demandé au roi de France de les protéger aussi.
Donc ça, c'était à quelle époque?
Alors c'est sous Charles VII, Charles V, Charles VII, dans cette période-là. Et alors le roi de France, alors c'est là que ça s'est construit véritablement une bastide avec ses remparts, la vieille porte, là que vous voyez, et donc c'est entouré d'eau, etc. Alors pareil, le roi de France voulait bien protéger, mais il voulait aussi bien sûr être pillé. Et là, il a donné les armes de Galan. Et ces trois fleurs de lys qui étaient. Alors, pour les armes du roi de France, c'était trois fleurs de lys en or sur un bleu azur. Et nous, on a trois fleurs de lys bleu azur sur un fond or. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une bastide royale.
Cette église, telle que nous la voyons aujourd'hui, elle porte un peu, j'allais dire, les stigmates de toutes les époques et de
Tout
toutes les
à fait,
épreuves.
absolument. Alors, absolument. Alors, il y a plein de choses. Je vous donne un peu des anecdotes parce que les gens aiment beaucoup les anecdotes. Cette église, il y a 25-30 ans, je ne sais plus, elle était entièrement couverte de plâtre avec les fameuses fleurs de lys. Bon, je trouve que ce n'était pas très joli, mais bon, voilà.
Elle était peinte. Sur les murs de pierre,
voilà.
C'était peint.
Il y a du plâtre et puis c'était peint. D'accord. Donc les fleurs de lys étaient bleues et donc le fond était or. Donc blanc, était blanc même. Ils ont donc tout décapé. Là, ils ont tout décapé et on a apparu. Ces pierres sont apparues, etc. Et même la fresque qui est là et qui était en relativement meilleur état que les autres, donc ils l'ont restaurée.
Alors cette fresque, il faut quand même en dire un mot, parce qu'elle date de quelle époque ?
Alors 16e siècle, c'est dans ma tête, 16e siècle, mais alors ce que vous voyez là, la crucifixion date du 17e, ça a été rajouté après. Et en fin de compte, c'est la légende du pendu des pendus.
Qu'est-ce que c'est que cette légende du pendu des pendus ?
Alors, vous voyez, c'est ensuite, comment on les appelle, ceux qui vont à Saint-Jacques-de-Compostelle.
Les pèlerins.
Les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et alors, voilà, c'est la première histoire qui est un peu... Mm-hmm. Après, ça s'était enjolivé. C'est un père allemand avec son fils qui décide d'aller à Compostelle. Et il s'arrête, bien sûr, dans une auberge. Alors, comme la légende, elle circule dans pas mal de villages, on va dire que c'est à Galant, mais c'est pas sûr que ça soit à Galant. Il s'arrête donc dans cette auberge. Et puis là, l'aubergiste voit un homme bien habillé, qui fait avec son fils, qui fait un voyage très long, enfin très, très coûteux. Il se dit, c'est des gens qui ont de l'argent. Et donc, il les fait bien manger, bien boire. Et puis, pendant la nuit, il se lève, et il va dans la chambre du jeune homme et il met une coupe d'argent dans sa sacoche. Et le lendemain matin, il crie, on a volé ma coupe, on fait venir les gendarmes, tout ça, on cherche et on trouve la sacoche dans le sac du jeune homme. Donc il est condamné à être pendu. D'où la potence que vous voyez là-haut, avec, on voit les cheveux du jeune homme,
oui.
Voilà. Et alors le pauvre père, il dit, qu'est-ce que je fais? Je reste là, je retourne chez moi, on avait décidé d'aller à Compostelle, je vais à Compostelle. Et il part, il fait son pèlerinage, et il revient. Et en revenant, il dit, je vais aller voir ce qu'ils ont fait de mon fils quand même. Il va vers là où il avait été pendu et il voit que son fils est encore vivant. Alors il appelle bien sûr les gens, alors tout le monde arrive, dit oh là là, mais s'il est... alors ils l'ont dépendu bien sûr, et dit s'il est vivant c'est un miracle, donc c'est pas lui qui a volé la coupe. Donc il cherche, il découvre effectivement que c'est l'aubergiste, et lui l'aubergiste est pendu. Alors la légende veut que Saint-Jacques de Compostelle, Saint-Jacques l'aurait soulevé, l'aurait soutenu pour qu'il ne soit pas pendu, et que la Vierge Marie l'aurait nourri.
Ah. Et tout ça s'est passé ici. Non, mais quand même, vous avez de la chance. Ici,
regardez,
à Galant.
On voit les pèlerins, ils sont à genoux. Ah. Vous les voyez, ils sont à genoux. Voilà. C'est une belle histoire. Hein.
Magnifique.
Donc, voilà. Et puis,
vous avez décapé les murs. Vous avez remis en valeur ces belles pierres, oui. Trouvé cette belle peinture.
Oui.
Et il faut dire que le tout est aujourd'hui très harmonieux. Je voudrais qu'on parle, Yvonne, de la tribune, mais surtout de l'escalier. Qu'est-ce que c'est que cet escalier, Yvonne ?
C'est un escalier qui permet de monter à la tribune.
Ah bah oui, ça, heureusement, ça serait le comble.
Moi, je le trouve assez... Moi, j'aime beaucoup.
C'est quand même très étonnant.
Ah, oui. Et alors, en fin de compte, c'est un tronc unique qui va jusqu'en haut, très, très droit. C'est vraiment un tronc d'arbre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le menuisier, il a creusé dans ce tronc
une rampe.
C'est pas une rampe. Une main courante qui va jusqu'en haut. Et ça, c'est assez étonnant. Et alors, c'est vrai qu'en plus, l'escalier est très joli, très décoré en bois. Et alors, il n'est pas unique, mais il est quand même assez rare.
Il n'y a pas d'orgue à Galant. C'est dommage avec une grande tribune comme ça.
Je ne sais pas pourquoi.
On ne peut pas avoir les réponses à tout.
Ce que je peux vous dire encore, ce qui est très étonnant, c'est que moi, je l'ai connu. Et c'était un parquet en bois. Et très ici, et donc très, très, très abîmé, très vieux. Donc ils ont rénové, ils ont retiré tout le parquet, ils ont creusé pour bien niveler, et puis la contre-marche là-bas, ils l'ont retiré pour bien égaliser, et ils ont creusé aussi, et ils ont découvert sous cette contre-marche toute une série de crânes. Alors, on ne sait pas si ce sont les religieux
les fameux bénédictins,
parce qu'ils sont restés quand même pas mal de siècles, hein, ou si c'est d'autres personnes. Alors, ils ont refermé la contre-marche, ils sont toujours là. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, bien sûr,
À quel saint est dédiée cette église?
Saint Julien de Brioude.
Alors Saint Julien de Brioude, il doit bien être quelque part dans cette église.
Alors, oui, vous le voyez à droite là-bas, c'était un soldat romain. Il est à droite et à gauche, vous avez son ami qui s'appelait Saint Féréol. Et vous l'avez aussi en vitrail là-haut. Alors à gauche, vous avez Saint Julien, vous voyez là-haut. Et à droite, vous avez Saint Féréol et au milieu, c'est Saint Pierre. Et alors, en fin de compte, ils étaient, je ne me rappelle plus dans quel... Ils s'étaient sauvés, en fin de compte, pour se cacher, parce que les chefs romains voulaient qu'ils renient leur religion, donc ils ne voulaient pas renier la foi chrétienne. Donc, il s'est sauvé pour aller à Saint-Brioude. Et là, il était dans une dame l'avait recueilli caché. Et puis, quand les Romains sont venus pour le chercher, il s'est fait voir parce qu'il voulait pas que la personne soit inquiétée. Et donc là, il a été décapité. Et en fin de compte, Saint Féréol a vu dans un rêve le sacrifice de son ami. Il a dit, c'est comme ça aussi que je vais mourir. Et lui-même a été effectivement décapité. Voilà. Mais ils ne voulaient pas renier leur foi.
Les martyrs.
Voilà, Saint Julien de Brioude. Ça a été vraiment construit, ça a été refait, quoi. Ce n'est pas du tout d'origine. Mais le baptistère est beau, mais je ne sais pas de quelle époque il est. Mais j'aime beaucoup parce qu'il est en pierre.
Voilà. Donc, les baptêmes aujourd'hui ont lieu ici, dans ce baptistère?
Non, ceux qui veulent, mais en principe, on refait les baptêmes là-bas. Alors, la légende voulait qu'ici, il y avait un souterrain. Et puis.
On voit une trappe là.
Et puis, en fin de compte, alors les gens me disaient, il y a un souterrain. Puis, les gens, quand ils disent, quand même, hein, ça. Moi, je croyais. Et puis voilà que la personne qui s'est occupée de la restauration, que une dame d'ici, je lui dis ça, me dit, ah non, 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 pas du tout ça. Quand on a refait, il y avait un trou, effectivement, mais l'ouvrier, en fin de compte, ça s'est arrêté à sa taille, il n'y a pas du tout de souterrain. Bon, je dis, je me suis trompée. Et voilà qu'un jour...
Déçu un peu.
Bah oui, quand même. Ah, hein. Oui. Et voilà qu'un jour, je raconte ça à une dame qui habite dans une très, très vieille maison qui date, qui est très belle en plus, vraiment magnifique. Et elle me dit, qui habite dans cette maison, elle a un escalier magnifique, il y a sûrement des religieux qui ont vécu là, parce qu'il y a une sacristie avec, vous savez, bon. Et elle me dit, alors je lui parle de ça, elle me dit, mais si, le souterrain existe, ça je suis sûre, parce qu'il sortait de là, de chez eux, qui est donc à l'extérieur de l'église, et quand ils ont refait, il y avait des arcades, ils les ont retirées parce qu'ils voulaient avoir une devanture, donc pour faire de la lumière, ils ont vu qu'il y avait une trappe, ils sont descendus, elle dit, c'est avec son père. Et elle dit, on a marché tout jusqu'à la moitié de la route, en dessous. Et là, elle dit, j'ai eu un boulet de canon que j'ai gardé. Et après, bon, c'était effondré. Et quand on continue sur cette route-là, on aboutit à la maison des Adères. Là, tu vois, là où il y a la ruche, où il y a un petit chemin. Et les personnes qui habitent dans cette maison me disent, mais oui, quand on est acheté la maison, la vieille dame qui était là nous a bien dit que là passait le souterrain. Et si on continue, eh bien, on aboutit exactement ici.
Donc il y avait bel et bien un souterrain. Mais alors ça.
Un souterrain.
Donc ça c'est un peu l'héritage de ces fameux bénédictins qui étaient là au début du XIIe siècle quand même, et probablement.
Tous les événements quand même douloureux qu'il y a eu dans cette église, il fallait effectivement qu'il y ait des moyens de se sauver, quoi, et d'aller dans la campagne. Et elle disait que ça devait même qu'il continuait dans la campagne derrière, hein, pour pouvoir se sauver. Alors maintenant, est-ce vrai, est-ce pas vrai, mais c'est quand même bien que les gens puissent raconter des choses comme ça, hein.
Voilà. Yvonne, on termine avec une petite question plus personnelle. Qu'est-ce qui vous touche, vous, personnellement, dans cette église?
Eh bien, ce que je vous ai dit, c'est si peu de choses à côté de tout ce qui s'est passé, de l'histoire de cette église depuis avant les Romains, quoi. Donc, c'est vraiment extraordinaire. En plus, comment vous dire? Moi, je la trouve très belle parce que, d'abord, rénovée, elle est très belle, quoi. Franchement, hein. Elle est très grande, mais c'est pas ça. Les vitraux, par exemple, les vitraux, c'est très rare que dans les campagnes, il y ait des vitraux. Et là, il y a des vitraux qui datent du début du 19e siècle, avec des saints étonnants. Par exemple, Sainte Jeanne, là-bas, C'est une, en fin de compte, c'est une histoire douloureuse. On ne comprend pas que cette sainte a été mise là, parce que ça date de, c'est une, la deuxième fille de Louis XI, qui était une enfant handicapée, qui est née handicapée. Il ne la supportait pas. Et alors, au bout de vers 6-7 ans, sa maman l'aimait beaucoup, par contre, il l'a donnée à un couple de nobles en province pour ne plus l'avoir sous les yeux. Mais comme il y avait une rivalité entre les deux familles, la famille royale, donc sa lignée, puis une autre lignée, qui avait un garçon qui avait à peu près la même âge que cette petite fille, il avait décidé de les marier pour qu'il n'y ait pas de descendance. Alors vers, je ne sais plus quel âge, je ne me rappelle plus, 10 ou 15 ans. Donc il avait eu un fils qui était mort, donc il n'y avait pas de descendance. Donc, mais vous, il ne voulait absolument pas. Et donc, la petite fille ne voulait pas. Le jeune homme ne voulait pas non plus, les parents du jeune homme ne voulaient pas, la maman de la petite ne voulait pas. Mais comme c'était le roi, ils ont accepté, ils ont été obligés. Donc ils se sont mariés et donc il n'y a pas eu un mariage énorme. Ça n'a pas été la grande fête.
Non.
Ni le baptême d'ailleurs. Et puis bon, et lui, il est décédé. Et quand il est décédé, eh bien, le jeune homme a demandé l'annulation du mariage. Mais comme il n'y avait pas de descendants, ils sont devenus règne roi pendant un très court temps. Alors, le divorce a été, l'annulation du mariage a été faite. La jeune femme s'est retrouvée dans la ville où elle avait été éduquée. Et là, elle était très pieuse. Elle a monté une communauté religieuse. Et alors, ce qui est étonnant, elle est devenue bien heureuse assez longtemps après, et elle est devenue sainte en 1950 quand même. Je trouve ça étonnant quand même. Hein.
Très longtemps après. Très
long. Alors elle est très belle, elle est très jolie, elle est dans le cœur, dans un vitrail là-bas, dans le cœur, mais alors que c'était une femme, bon, c'est une histoire vraiment terrible. Hein. Et puis il y a un autre vitrail qui m'a beaucoup étonnée, c'est celui de Saint Jean, parce qu'on voit Saint Jean avec un calice et on voit un serpent qui sort du calice. Et alors, je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est que ce... Pourquoi un serpent qui sort du calice ? Moi, je me suis dit, le calice, c'est Dieu qui sauve les hommes. Voilà. Donc voilà, vous le voyez ? On voit l'aigle, celui de droite. Alors, on ne le voit pas très bien, mais on voit un petit bout vert. Vous voyez pas ? Voilà. Et il est aussi dans le cœur. Je ne comprends pas qu'il y ait deux vitraux qui soient les mêmes, qui soient dans le cœur. Alors, c'est aussi une histoire. Saint Jean, donc, il était à Éphèse, et il y avait un temple de Diane. Et alors... Sa foi, bien sûr, son amour de Jésus était très grand à cette époque-là. Il a détruit le temple. Le prêtre de ce temple, furieux, a dit « Je vais te faire mourir ». Alors, il a broyé du serpent et du venin dans une coupe. Il a dit « Pour que tu sois sûr que tu vas mourir, je vais le faire boire à deux prisonniers, deux condamnés à mort, et tu vas voir, tu mourras aussi ». Donc, il fait boire le poison à ces deux prisonniers qui meurent, bien sûr. Et Saint Jean voit le poison et ne meurt pas. Alors, bien sûr... Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il a dit que je me croirai en ton Dieu si vraiment... Voilà. Et puis, il ressuscite aussi les deux autres, quoi. voilà les anecdotes. Voilà. Et la dernière chose que je peux dire, si tu regardes les anges qui sont là-haut, il y a trois anges. Et alors, c'est étonnant. Moi, je n'étais pas du tout rendu compte. Et un jour, avec des jumelles, un ami me dit, regarde s'ils ont les anges. Ils ont tous quelque chose dans les mains.
Alors, qu'est-ce qu'ils ont ? Moi, je n'ai pas pris mes jumelles. Je ne savais pas que pour venir à Galan, il fallait des jumelles. Un GPS, sait, oui, mais
quand on le sait, on le voit. Mais quand on ne sait pas, on ne le voit pas.
Alors celui du bas...
Il y en a un qui a un marteau. C'est celui qui est à droite. Et de l'autre côté, alors on le voit, son marteau en haut. Et dans son autre main, regarde bien, il a quelque chose. Alors, on ne le voit pas bien. Mais celui du bas... La main du côté gauche, regarde bien, on voit très très bien ce qu'il a. Tu vois ?
Je n'arrive pas à distinguer.
Eh bien, il a des tenailles. De l'autre côté, dans sa main qui est comme ça, on ne voit rien. Alors, tu me diras après. Après, tu vois, il a trois clous, l'autre. Il a le marteau et trois clous. D'accord ? Et celui qui est en haut, il a une couronne d'épines le fouet de la flagellation.
Ah oui. Et en fait, quand on le sait, ça paraît tellement évident. Effectivement, on voit bien la tenaille.
Voilà. Alors moi, je pense, mais j'en suis pas sûre, parce que dans l'autre main qui est serrée comme ça, il doit avoir l'éponge de vinaigre, puisque ce sont tous les objets de la crucifixion.
Et comme on n'a pas d'échafaudage dans notre poche pour aller vérifier, on va dire, Yvonne Gougis, que vous avez raison.
Peut-être. Donc voilà, voilà. Bon, je peux...
Voilà, eh bien, merci beaucoup pour la rapide. Visite. Ben, c'est une visite quand même pas si rapide que ça, donc est très efficace. Merci pour toutes ces anecdotes.
C'est surtout des anecdotes, mais bon, à part les érudits qui aiment bien connaître hein, par détail toutes les petites choses, les gens qui viennent dans l'église, ils aiment les petites histoires, voilà, les petites choses étonnantes. Voilà.
Merci beaucoup, Yvonne Gougis.
De rien.
Voilà pour la visite de cette église de Galan. Merci à l'invité d'Anne-Rose Jankovic. Tout au long de cette semaine, nous sommes en reportage dans le Magnoac. Et demain, eh bien, on ira du côté de Termes-Magnoac. L'église de Termes-Magnoac est à la Maison du Patrimoine avec Anne-Rose Jankovic et son invité. C'est à suivre sur Radio Présence.